France Inter,
franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui 4 avril 1968, il y a 40 ans, l'assassinat de Martin Luther King. Vous ne pouvez rien contre la mort. Vous pouvez juste choisir ce pourquoi vous allez mourir. Martin Luther King, 3 avril 1968. ans d'histoire. Le 4 avril 1968, il y a 40 ans, Martin Luther King était assassiné à Memphis, où il était venu soutenir une manifestation de grévistes noirs. À 39 ans, il était déjà universellement connu, depuis le 28 août 1963. Ce jour-là, à Washington, devant 250 000 personnes et les caméras de toutes les télévisions du monde, au pied de la statue de Lincoln, cet arrière-petit-fils d'esclave avait rêvé d'une Amérique dont tous les citoyens auraient les mêmes droits, quelle que soit la couleur de leur peau. Un an plus tard, ce rêve devenait une réalité et Martin Luther King, le plus jeune prix Nobel de l'histoire. C'était l'aboutissement d'un combat commencé le 1er décembre 1955 dans une petite ville de l'Alabama. Ce jour-là, dans un bus de Montgomery, une couturière noire, Rosa Parks, avait été arrêtée par la police parce qu'elle avait refusé de laisser sa place à un blanc. Au lieu de se résigner, la communauté noire de Montgomery décidait de boycotter les bus de la ville. À sa tête, un pasteur de 26 ans, dont l'Amérique n'allait plus cesser d'entendre parler, Martin Luther King.
We, the Negro citizens of Montgomery,
nous, les citoyens noirs de Montgomery, sommes engagés dans une lutte non violente contre les mesures injustes et indignes qui nous sont imposées dans les bus de la ville. Nous remonterons dans les bus, ayons assez d'amour pour transformer un ennemi en ami. Nous serons capables de sortir de la nuit où sévit la cruauté de l'homme envers l'homme pour aller vers une aube resplendissante de liberté et de justice. Nous, citoyens noirs de Montgomery, Alabama, allons continuer notre vaste mouvement de protestation.
Papa Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
C'était Martin Luther King en 1955, 13 ans avant son assassinat le 4 avril 1968. Et il appelait à l'époque ses concitoyens, les concitoyens de Montgomery, à boycotter les bus de la ville. C'était sans doute la première fois qu'on entendait sa voix. En tout cas, c'est le plus vieil enregistrement que l'on ait de sa voix. Vous le rappelez dans un article de la revue L'Histoire du mois de mars qui a consacré tout un dossier à Martin Luther King. Alors à l'époque, il n'était pas très connu, il n'avait que 26 ans et il était, et ça s'entend dans tous ses discours, il était pasteur, fils et petit-fils de pasteur. D'ailleurs, tous ses discours justement étaient un peu des sermons, mais alors des sermons qui ont enflammé l'Amérique pendant 13 ans, Papa Ndiaye.
Oui, il est pasteur, il a suivi des études de théologie poussées, il a même un doctorat de théologie, ce qui était très rare pour les pasteurs à l'époque, et son art oratoire est truffé de références bibliques, religieuses, en particulier des références aux messages de libération et d'espoir qu'on peut trouver dans la Bible. La référence, par exemple, à la sortie d'Égypte par les Hébreux, qui parle particulièrement aux descendants d'esclaves que sont les Noirs américains. Et par ailleurs, il a un art oratoire, on vient de l'entendre, tout à fait brillant, avec un débit, une scansion assez particulier.
Pendant ses études, il ne lit pas que de la Bible, il lit aussi quand même Thoreau, et il découvre ce qui va être le principe de toute son action, c'est-à-dire la non-violence.
Exactement. Il mêle au fond des lectures qui sont celles de l'évangélisme social, c'est-à-dire de la tradition progressiste que l'on trouve dans le protestantisme américain depuis la fin du XIXe siècle, et d'autres lectures en dehors du monde protestant stricto sensu, qui sont celles d'un Thoreau, peu connu en France, mais grande figure poétique aux États-Unis. Et qui a inspiré Gandhi. Et Gandhi lui-même, qui lit dans son séminaire de Crozer à la fin des années 40, et pour lequel il se passionne à un moment où l'Inde devient indépendante, bien sûr.
Alors, une non-violence qu'il va mettre en pratique à Montgomery en 55, en boycottant les bus de la ville pendant plus d'un an, 381 jours, pour protester contre une loi de ségrégation qui interdisait, en tout cas dans cette ville et dans cet État, aux Noirs, qui imposait aux Noirs de quitter le bus, ou en tout cas de laisser leur place aux Blancs quand il y avait des Blancs.
C'est cela. Et en cela, le boycott de Montgomery est un moment tout à fait essentiel des droits civiques. Ce n'est pas que le boycott est inventé à ce moment-là. Il avait déjà été expérimenté auparavant, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, il dure plus d'un an. Et un boycott des bus pendant plus d'un an nécessite des formes d'organisation particulières, du covoiturage, tout un système d'entraide que King, qui est non seulement un pasteur, mais un très bon organisateur, contribue à mettre en place pendant toute l'année 56.
Et efficace, parce que pour la compagnie de bus de Montgomery, c'était financièrement insupportable, si bien qu'elle a fini par céder. En tout cas, une non-violence que Martin Luther King allait pratiquer contre toutes les formes de ségrégation qui existaient aux États-Unis dans les années 50.
We feel that this protest which we are involved in is constitutional.
Nous savons que notre lutte est constitutionnelle et nous refuser ces droits équivaut à nous refuser nos droits constitutionnels de citoyens des États-Unis. Une des fiertés de la démocratie américaine est que nous avons le droit de lutter pour nos droits. C'est une lutte non violente. Nous comptons sur des forces spirituelles et utilisons la résistance passive. Même si nous subissons la violence, nous ne la rendrons pas.
We shall overcome, c'est un vieux cantique de 1903, mais c'est devenu en fait l'hymne au fond des Noirs américains contre la ségrégation.
Exactement, interprété de manière inoubliable par la grande chanteuse de gospel Mahalia Jackson, qui chantera quelques années plus tard aux obsèques de King.
Alors, dans les années 50, il faut le rappeler, la ségrégation n'existait pas qu'à Montgomery et pas seulement dans les bus. Elle était pratiquée dans presque tous les États, en tout cas du sud des États-Unis, Papandiaï.
Elle corsetait tous les États du sud des États-Unis depuis la fin du 19e siècle et séparait les Blancs et les Noirs dans l'espace public en général, avec de multiples lois qui prenaient parfois un tour baroque selon les États. Dans le Tennessee, par exemple, les ascenseurs pouvaient être ségrégés avec des ascenseurs pour noirs, des ascenseurs pour blancs, les toilettes un peu partout, les cimetières, les hôpitaux, les écoles, les stades, les lieux de loisirs, les restaurants, les cafés, bref, la vie sociale était en quelque sorte séparée par un mur séparant les uns des autres.
Ça dépendait des États, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce système fédéral, le gouvernement fédéral, qui avait déjà supprimé la ségrégation dans l'armée, par exemple un service public, ne pouvait rien contre les lois de ces États. C'est ça qui a paralysé au fond Washington pendant longtemps, Papandiaï.
En partie dans la mesure où la Cour suprême, qui est l'instance judiciaire suprême des États-Unis, pouvait quand même intervenir et signifier que les lois de ségrégation étaient illégales au regard des principes généraux gouvernant le pays. C'est ainsi qu'en 1954, la Cour suprême a interdit la ségrégation dans les écoles publiques au motif que la séparation des élèves blancs et noirs était préjudiciable aux élèves noirs. Et donc, l'effort de déségrégation commence par des décisions de justice par le haut, en quelque sorte, avant que, à partir de 1956 et du boycott des bus, au fond, la mobilisation des Noirs ne force le pouvoir politique et législatif, en particulier, à intervenir de manière plus directe qu'il ne l'avait fait jusqu'à présent.
Et avec cette organisation qu'en 1957, Martin Luther King crée le SCLC, Southern Christian League Conference, et avec des moyens, d'autres moyens que le boycott. Il y a des tas d'autres moyens non violents pour essayer de faire disparaître la ségrégation, Papandiaï.
C'est cela, et on expérimente donc toutes sortes de moyens. Le boycott, on vient d'en parler, mais aussi les sit-ins qui commencent à partir de 1960 en Caroline du Nord, À partir de 61, les fameux Freedom Rides, les voyages de la liberté par lesquels des étudiants, souvent blancs et noirs, voyagent ensemble dans les lignes de bus dans le sud. L'idée, au
ils
fond,
se font attaquer d'ailleurs ils se font attaquer par le Ku Klux Klan, hein, qui est très efficace.
De manière très, très violente, en particulier dans l'Alabama et le Mississippi, les deux États peut-être les plus ségrégés du sud. L'objectif, c'est au fond de provoquer le système de la ségrégation, de faire connaître aux Américains l'injustice de ce qui se passe dans le Sud. Et donc là, le retentissement médiatique est tout à fait essentiel dans la démarche des droits civiques.
Notamment lorsque, justement, des manifestations très violentes, enfin pas très violentes de la part de ceux qui les organisent, mais de la part de la police qui les réprime, se produisent à Birmingham en 1963. L'opinion américaine est bouleversée, ce qui pousse le président Kennedy, en juin 1963, à déposer un projet de loi fédérale interdisant la ségrégation, et l'occasion pour Martin Luther King de faire pression sur le Congrès en organisant la plus grande manifestation de masse qu'on ait jamais vue aux États-Unis et en prononçant à Washington un des discours les plus célèbres de l'histoire du XXe siècle. C'était le 28 août 1963 devant 250 000 manifestants.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lève et vive sous le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia.
Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des esclaves et les fils des propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité.
I have a dream that my four little children.
Je fais le rêve que mes quatre jeunes enfants habitent un jour une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère.
I have a dream today.
À travers nos luttes, nos souffrances, notre sacrifice, nous serons capables d'accomplir le rêve américain. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, seront capables de se tenir par la main et chanter le vieux négro spirituel libre enfin. Merci Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres.
Give us freedom. Freedom's coming, it won't be long. Freedom, freedom. Freedom's coming, it won't be long.
Welcome, Mr. Kennedy. Take me out my misery.
Freedom's coming, it won't be long.
Well, can't you see what segregation's going to be?
Freedom's coming, it won't be long.
Everybody free.
C'était Calypso Freedom, d'après un très grand succès d'Harry Belafonte à l'époque. Harry Belafonte, qui avec beaucoup d'autres chanteurs, John Baez, Bob Dylan, était à cette manifestation à Washington extraordinaire. Quand on entend la voix de Martin Luther King, on est aussi bouleversé qu'on devait l'être à l'époque.
Certainement, il prend la parole à la fin de la journée. La journée a été d'une chaleur écrasante dans l'été de Washington. Il commence son discours, c'est un discours écrit hein, au départ. Et puis, emporté par son élan, il prolonge et se lance dans une improvisation magnifique.
Tout ça, I Have a Dream, c'est improvisé.
C'est improvisé. Alors, ce sont des éléments qu'il a déjà prononcés dans différents discours auparavant. Mais il rassemble ça dans une improvisation géniale qui fait entrer ce discours dans l'histoire américaine.
Et qui fait entrer Martin Luther King, qui est déjà connu aux États-Unis depuis le temps qu'il lutte, depuis Montgomery, mais vraiment qui lui donne une dimension internationale, au point d'ailleurs qu'il reçoit peu de temps après le prix Nobel de la paix.
Exactement. Il est déjà connu de tous les Américains, incontestablement. Mais c'est ce discours qui est instantanément traduit dans des dizaines de langues. Il est traduit en français quelques jours après dans la presse. Il fait son chemin en Asie, du côté de l'Inde, en Afrique, récemment décolonisée. Et ce discours devient emblématique de la lutte des Noirs pour l'égalité des droits, c'est-à-dire pour la fin de la ségrégation et pour l'obtention du droit de vote.
Alors cette égalité, il l'a il la réclame. Kennedy l'avait promise, il avait déposé un projet de loi pour supprimer en tout cas la ségrégation en juin 1968. Il y a eu ce discours de Washington. Kennedy est assassiné en novembre, mais son successeur, Johnson, va continuer dans le même sens et faire voter donc par le Congrès et signer d'ailleurs le 3 juillet 1964 la suppression de la ségrégation. France Inter, Michel Texier.
Il était minuit moins 5 en France, un siècle après la libération des Noirs par Abraham Lincoln, quand le président des États-Unis, en signant le projet de droit civique, a promulgué la loi.
Tonight, I urge every public official, I urge every American to join in this effort to bring justice and hope to all our people.
Ce soir, je demande à tous les fonctionnaires, à tous les chefs religieux, je demande à chaque Américain de se joindre à l'effort commun qui doit apporter la justice et l'espoir à tous et la paix dans notre pays.
Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law, and thus reaffirms the conception of equality for all men that began with Lincoln and the Civil War 100 years ago. The Civil Rights Act of 1964.
Et c'était en juillet 64 la fin de la ségrégation dans tous les lieux publics, mais pas la fin du combat de Martin Luther King, Pape Ndiaye.
Non, dans la mesure où la suppression des fameux signes whites et colored à l'entrée des lieux publics dans le Sud ne réglait pas tous les problèmes. Il en restait un qui était absolument central, c'était le droit de vote, dans la mesure où les Noirs étaient privés du droit de vote.
Et il existe pourtant, en théorie, tout le monde peut voter aux États-Unis.
En théorie, tout le monde peut voter aux États-Unis. Et les esclaves pouvaient le faire en vertu des 14e et 15e amendements votés juste après la guerre de sécession. Mais au début du 20e siècle, les États du Sud ont voté ou ont mis en place des systèmes juridiques par lesquels, au fond, les Noirs ne pouvaient pas voter. Par exemple, en Louisiane, la fameuse loi du grand-père stipulait que seuls pouvaient voter celles et ceux dont le grand-père pouvait voter. Or, bien entendu, les fils et petits-fils d'esclaves n'avaient pas de grand-père qui votait. Et donc, par ces artifices-là, la population noire du Sud a été écartée des bureaux de vote.
Il y avait des clauses de résidence.
Des clauses de résidence ou des clauses de lecture et de maîtrise de l'écriture qui faisaient que les Noirs échouaient systématiquement. Et c'est ce genre de disposition qui prend fin l'année suivante.
Alors, il y avait des endroits, vous citez par exemple la ville de Selma, où 1% des Noirs étaient inscrits sur les listes électorales, et ça va faire l'objet de 3 marches de protestations qui sont extrêmement violentes en 1965.
Exactement. La démarche, encore une fois, c'est de mettre en place des manifestations, des démonstrations pour forcer localement les autorités à inscrire les Noirs sur les listes électorales. À Selma, par exemple, dans l'Alabama, le bureau d'inscription n'était ouvert qu'une demi-journée par mois, selon des horaires fantaisistes. Et donc, de facto, la population ne pouvait pas voter. Et donc, il faut une mobilisation à chaque fois, qui est non seulement celle des Noirs de la région, des Noirs de Selma, mais de toute une partie de jeunes militants, y compris des jeunes militants du Nord, qui se joignent à la marche pour obtenir le droit de vote.
Alors, marches qui sont réprimées très violemment par la police. D'ailleurs, il y a eu des morts à ce moment-là. Et cela pousse Johnson à faire voter donc une deuxième loi supprimant toute limitation au droit de vote. C'était en août 1965, la Voting Rights Act. Et au moment même, d'ailleurs, où Johnson augmentait la pression de son pays, engageait son pays de plus en plus loin dans la guerre du Vietnam, et l'occasion pour Martin Luther King de se lancer dans un nouveau combat.
Le monde exige de l'Amérique une grande maturité que nous ne sommes peut-être pas capables d'acquérir. Le monde exige que nous admettions notre erreur dès le début de notre engagement au Vietnam et du mal fait aux Vietnamiens. Mon espoir est que chaque jeune homme de ce pays qui trouve cette guerre répréhensible, abominable, injuste, devienne objecteur de conscience.
I got a letter from LBJ, it said this is your lucky day, it's time to put your khaki trousers on. though it may seem very clear, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese.
Alors à la fin de sa vie, Papa Ndiaye, le combat de Martin Luther King ne se limite plus à celui de la lutte contre la ségrégation, d'ailleurs la loi sur les droits civiques l'interdit, ni même à l'égalité des Noirs devant le droit de vote, mais on le voit s'engager dans d'autres combats, notamment le Vietnam, ce qui d'ailleurs lui sera reproché par certains.
C'est cela, les murs de la ségrégation sont tombés, le droit de vote est acquis dans le Sud, et donc King tourne son attention vers d'autres problèmes. En particulier ceux liés à la pauvreté des grands ghettos noirs du Nord. Il s'installe d'ailleurs avec femme et enfant à Chicago à partir de 1966 pour s'intéresser à des questions qui ne sont plus celles qui relèvent des inégalités raciales, mais aussi des inégalités de classe.
Alors il est très contesté, accusé alors là par son pire ennemi, sans doute le patron du FBI, Edgar Hoover, d'être un communiste à la solde de l'étranger, critiqué aussi à l'intérieur même du mouvement noir par des éléments beaucoup plus radicaux.
C'est ça, une branche plus radicale qui était déjà présente avec Malcolm X, qui est assassiné en février 65, mais qui se développe à partir de l'été 66 sous la forme du fameux Black Power, avec des militants noirs qui reprochent à King d'être trop modéré, trop enclin à des compromis finalement peu avantageux pour les Noirs et qui souhaitent affirmer plus nettement à la fois leur identité noire et en même temps les difficultés propres aux jeunes noirs des ghettos. Et le mouvement Black Power a une certaine audience, en particulier dans des villes comme Chicago, Detroit, des villes auxquelles King s'intéresse.
On lui reproche aussi de commencer à avoir des ambitions politiques, de voir plus loin que la simple direction de son propre mouvement, de se rapprocher par exemple du frère de Kennedy, de Robert Kennedy, qui était candidat à la présidentielle en 68.
Et les deux hommes sont proches et s'apprécient d'ailleurs, puisque c'est Robert Kennedy qui, plus que son frère John, au début des années 60, a joué un rôle important pour sortir King de prison à de nombreuses reprises, pour envoyer les troupes fédérales soutenir les partisans des droits civiques. Et donc il se rapproche en effet à la fin des années 60, à la fois sur la question du Vietnam, puisque Kennedy est lui aussi opposé à l'intervention américaine
Robert
au Vietnam,
Kennedy, oui.
Et Robert Kennedy, et également sur les questions liées à la lutte contre la pauvreté. Mmh. Et donc au début 68, il semble bien que les deux hommes soient en proximité politique, d'autant que Robert Kennedy à des ambitions politiques suprêmes.
Et dans un climat d'extrême violence, parce que, au fond, les lois, la Civil Rights Act et la loi sur le droit de vote n'empêchent pas la violence. Au contraire, elle se déchaîne encore plus qu'avant. On a le sentiment presque que le combat de Martin Luther King n'a abouti qu'à l'aggraver. C'est en tout cas ce qu'on lui a reproché.
C'est vrai en particulier.
Il y a eu les émeutes de Watts, par
voilà,
exemple.
Et dans les grands ghettos des villes du Nord, le fameux long été torride de 1967 voit 200 personnes tuées dans les ghettos, à Detroit, à Cleveland et dans bien d'autres villes. Et au fond, là, la question qui se pose, ce n'est pas la question de la ségrégation formelle comme dans le Sud, ni celle de droit de vote, mais c'est la misère des ghettos, c'est l'absence de travail, ce sont les conditions de vie extrêmement dures, c'est le racisme et les discriminations. Et ça, c'est quelque chose qui éclate de façon extrêmement forte après le vote des lois de 64 et 65, comme si ces lois, au fond, avaient levé un espoir qui ne correspond pas à la réalité vécue, en particulier par les Noirs des ghettos.
Et une violence dont Martin Luther King sera lui-même victime. Le 4 avril 1968, il arrive à Memphis pour défendre ou pour soutenir une grève des boueurs noirs de la ville. Et c'est alors qu'il est assassiné, France Inter, Claude Mazot, le 5 avril 1968.
Martin Luther King est mort, assassiné à Memphis dans le Tennessee. Il est tombé sous les balles de son meurtrier alors que, penché au balcon de son hôtel, il disait à un ami pasteur « N'oublie pas de chanter ce soir, que le Seigneur soit loué et surtout chante-le bien. »
Le président Johnson a tout de suite réagi. Il a lancé hier soir un message à la nation américaine. Et le sénateur Kennedy a également fait une déclaration hier soir.
For those of you who are black and are tempted to be filled with
pour ceux d'entre vous qui sont noirs et tentés de ressentir de la haine envers des blancs face à un acte d'une telle injustice,
I would only say that I can also feel in my own heart.
Je leur dis que je ressens dans mon propre cœur le même sentiment. Un membre de ma famille était tué, mais par un blanc.
It is not the end of violence.
Ce n'est pas la fin de la violence, ni de l'illégalité, ni du désordre.
It is not the end of disorder.
Gracious Lord, take my hand.
Precious Lord, take my hand, c'était Mahalia Jackson qui chantait cela il y a 40 ans, le jour des obsèques de Martin Luther King, assassiné par un blanc, James Earl Ray, dont on n'a jamais très bien su s'il avait agi seul. Et dans un climat de violence incroyable, Pap Ndiaye, Robert Kennedy, que l'on vient d'entendre, c'était très émouvant, est mort 2 mois plus tard, lui-même assassiné. Et dans un pays où la ségrégation a peut-être disparu, mais pas les inégalités. Que penser du combat de Martin Luther King 40 ans après ?
Bien, 40 ans après, on peut constater que pour les pauvres noirs, ceux des ghettos dont on parlait tout à l'heure, la situation ne s'est pas améliorée, loin de là. Les indicateurs sociaux dont on dispose montrent qu'ils sont dans des situations économiques et sociales extrêmement difficiles. En revanche, c'est la classe moyenne noire qui s'en est mieux sortie grâce à différents programmes, en particulier les programmes de discrimination positive dans les universités. Mais incontestablement, si du chemin a été parcouru, King lui-même serait surpris d'ailleurs de voir peut-être qu'un candidat noir sera à la Maison-Blanche dans quelques mois, en tout cas.
Ce qui aurait été impensable il y a 40 ans. Il n'aurait peut-être même pas pu être candidat, et même sur les listes électorales, Barack Obama.
Exactement. En revanche, pour une partie, la partie la plus pauvre de la population noire, entre un quart et un tiers, la situation s'est dégradée en raison de la disparition des emplois industriels dans les années 70, de l'arrivée de la drogue qui fait aussi des ravages à partir du milieu des années 70 et d'autres phénomènes de ce genre. Et donc, incontestablement, le combat de King, les échos, notamment dans la dernière partie de sa vie, lorsqu'il lance la campagne pour les pauvres gens ou lorsqu'il s'oppose à la guerre, une autre guerre que celle d'Irak, mais enfin, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre les deux. Ces combats-là gardent une forme d'actualité.
Et King, qui est quand même, célébré aux États-Unis, il est même le seul, je crois, avec Washington, à faire l'objet d'une journée, d'un jour férié.
Exactement, le troisième lundi de janvier. Mais on peut remarquer aussi que le mythe King finit par recouvrer ce que le personnage pouvait avoir de plus abrasif, de plus politique, de plus revendicatif, particulièrement dans les dernières années de sa vie. Autrement dit, on préfère célébrer le King de I Have a Dream plutôt que le King qui s'oppose à la guerre du Vietnam, par exemple.
Merci, Pap Ndiaye. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article publié dans la revue L'Histoire du mois de mars 2008 et qui consacre un dossier spécial à Martin Luther King. Vous êtes également l'auteur du livre La condition noire, essai sur une minorité française, récemment publié aux éditions Calman-Lévy. À lire également deux textes de Martin Luther King, Autobiographie et Je fais un rêve, publié aux éditions Bayard. Également Martin Luther King, l'apôtre de la non-violence aux éditions Librio, Martin Luther King de Brigitte Labbé et Michel Puech aux éditions Milan Jeunesse. Et puis vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants, Martin Luther King, I Have a Dream, de Thomas Friedman, disponible en DVD chez BQHL Éditions, et Les Kennedy, destin tragique d'une dynastie, de Philippe Whitehead. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Alléon et Michel Bertin, documentation et archives Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.